Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 45 de ITcast du 16 juin 2017. Aujourd'hui, je reçois Marc Gardette, responsable de la stratégie cloud de Microsoft France, pour parler avec nous des data centers Microsoft qui arrivent prochainement en France. Marc nous explique ce que cela va vous apporter concrètement et comment vous pourrez tester gratuitement les services Azure en France avant l'ouverture publique. Maxime est là aussi, bien sûr, pour partager avec nous quelques brèves, avec des nouvelles de Docs.com, de OneDrive, de Windows 10 et de son petit frère Windows 10S, du portail d'Azure, d'Intune, d'Azure Active Directory et enfin de SCCM. Mais tout de suite, on commence par les data centers en France avec Marc Gardette. Je suis aujourd'hui dans les locaux de Microsoft avec Marc Gardette, responsable de la stratégie cloud de Microsoft France. Bonjour Marc.
Bonjour Pascal.
Donc on va parler avec toi Marc ce matin d'une annonce qui a été faite début octobre 2016, donc il y a à peu près 8 mois, et qui concernait la prochaine ouverture de data center Microsoft en France.
Oui, effectivement, c'était à l'occasion de la visite de Satya Nadella en Europe et la veille de gros événements MS Experience. Satya a fait deux annonces importantes. Il a annoncé l'expansion des infrastructures existantes en Europe, notamment Dublin Amsterdam, puisqu'on a rajouté de la capacité. La capacité en Europe a doublé à peu près en un an, pour accompagner la croissance notamment d'Azure qui a cru de 80% à peu près. Et la deuxième annonce importante qui nous concerne effectivement, c'est l'annonce, l'arrivée initiale en 2017 du cloud Microsoft dans une nouvelle géographie qui était la France.
D'accord. Et donc, je crois me rappeler, on avait bien annoncé deux régions en France, sans rentrer dans les détails des data centers, mais deux régions.
Oui, absolument. Donc cette géographie fait partie d'une initiative entamée déjà depuis quelques années, qui consiste à mettre à disposition de nouvelles régions du data center Microsoft au sein d'un pays, c'est-à-dire qu'ils garantissent que la localisation de données restera au sein d'un pays. Donc, pour donner d'autres exemples de modèles plus récemment, si on remonte un petit peu dans le temps, l'annonce la plus récente, c'est l'Afrique du Sud, où on a annoncé également deux nouvelles régions à Johannesburg et à Cape Town. Un petit peu avant, vous aviez la Corée du Sud, avec aussi deux nouvelles régions, l'Angleterre, avec c'est toujours minimum deux régions. Alors pourquoi deux régions? C'est parce que on va assurer que le backup, le disaster et le recovery se fait au sein d'un même pays. C'est pour ça qu'au sein d'un même pays, vous pouvez en avoir plus. Certaines régions US ont plus de deux, certaines géographies aux US ont plus de deux régions data center, mais il en faut minimum deux. Donc en France, on a effectivement annoncé qu'on aurait une région autour de l'île de France, la région parisienne, qu'on appelle France centrale, et une autre région autour de la région de Marseille, qu'on appelle France sud.
Et ça portera donc à terme, avec les nouvelles annonces concernant l'Afrique du Sud, le nombre à 40 régions, c'est ça ?
Exactement. Alors, une petite précision de vocabulaire précis, lorsqu'on parle de deux régions et celles que je viens de nommer, France centrale et France sud, on parle de régions Azure, c'est-à-dire les régions que vous voyez apparaître dans votre portail lorsque vous déployez des services, comme aujourd'hui vous voyez l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Ouest. Lorsqu'on parle d'Office 365, on n'a pas cette notion de région, puisque la région, c'est la France. La région Office 365, elle est composée de tous les data centers en France, puisque vos infrastructures, notamment avec Change par exemple, seront réparties sur l'ensemble des data centers qui composent la géographie France. Donc par défaut, un client, lorsque les services 365 seront disponibles, seront déployés en France. On ne choisira pas pour déployer Mantenan 365, la région France Sud ou France, je serai déployé en France.
D'accord.
Et les données seront répliquées sur l'ensemble des data centers qui composent les deux régions qui sont les deux régions Azure dont on vient de parler. Il y a souvent une confusion. Donc il y a trois niveaux, si je reprends un peu de zoom. Lorsqu'on parle d'une géographie, donc la France est une nouvelle géographie qui va être composée de deux grandes régions data centers. Et chaque région peut être composée de plusieurs data centers. Si vous avez l'occasion de visiter un jour Dublin ou Amsterdam, vous verrez qu'il n'y a pas forcément qu'un seul bâtiment au sein d'une région. Mais ça, après, on ne communique pas sur le détail de la capacité, du nombre de data centers, de l'investissement qui a été fait en France, de la nature de ces data centers. Est-ce qu'on on va les louer chez un partenaire du type colocation ou est-ce qu'on va construire les murs? À la limite, on n'a jamais communiqué dans aucune région sur ce type de détails. L'important, c'est que ces data centers soient dans le monde entier, gérés exactement de la même façon, avec les mêmes critères, je dirais, de sécurité et de certification, par exemple.
D'accord. Donc, quand on utilisera ces data centers avec Azure, on va choisir sa région, on va choisir France centrale ou France sud.
Voilà. Ou d'autres régions dans le monde, hein, oui. Mais ça sera des choix supplémentaires.
Ou d'autres. Une première chose. Par contre, dans Office 365, non, on choisit la France, on choisit la géographie France, c'est ça ?
Aujourd'hui, la façon dont c'est fait, aujourd'hui, avant que cette nouvelle géographie France soit disponible, un client qui a une adresse de facturation en France est déployé en Europe, par défaut. Lorsque les services Office 365 seront disponibles en France, un client avec une adresse de facturation en France, son tenant sera par défaut et automatiquement déployé en France. Voilà. Donc, ce n'est pas le client qui choisit pour Office 365, alors que c'est le client qui choisit pour Azure.
Et un client existant aujourd'hui, qui est donc en Europe, est-ce qu'il sera migré en France ?
Alors, il n'y a pas d'automatisation, on ne va pas forcer les automatisations. L'approche sera différente pour Azure et pour Office 365. Pour Azure, puisque le client a toujours le choix de déployer ses comptes de stockage, ses machines virtuelles, ses services, s'il décide qu'une application aujourd'hui déployée, par exemple à Dublin, Amsterdam, qu'elle doit être déployée dans les nouvelles régions France, ça sera à gérer à sa charge et sous sa responsabilité. À tout moment, il peut décider de migrer son environnement et de redéployer dans la région de son choix, en France ou ailleurs. Pour Office 365, c'est un peu différent. Alors, pour l'instant, je ne peux pas confirmer, parce que tant que le service n'est pas disponible, je ne peux pas confirmer le principe d'un ce qu'on appelle un move programme. Mais si vous regardez, d'ailleurs, il y a des articles sur TechNet, on pourra d'ailleurs peut-être mettre le pointeur dans l'article. Dans toutes les autres géographies, y compris récemment en Angleterre, Microsoft a proposé ce qu'on appelle un move programme. Alors, pour faire simple, c'est pendant une période limitée dans le temps, de 3 mois en moyenne, les clients peuvent aller sur leur portail d'administration 365 et faire ce qu'on appelle une opération de opt-in pour demander à être rapatrié dans la nouvelle géographie qui vient d'être ouverte. Donc ça, c'est ce travail de migration, je n'aime pas le terme migration, mais de transfert, je dirais, du tenant de la région Europe vers la région France, si ce type de programme est confirmé pour la France. Hein, je pars d'une hypothèse en prenant ce qui a été fait dans les autres régions pour l'instant et ce qui existe en Angleterre aujourd'hui. Ce n'est pas obligatoire, mais le client pourra choisir, c'est une opt-in. Et derrière, Microsoft aura un certain temps pour le faire. Il n'y a pas de SLA, on ne peut pas s'engager et on comprend assez facilement pourquoi. À ce que tel tenant soit migré à telle date, puisque tous les clients vont se positionner, donc il y aura une sorte de file d'attente où au fur et à mesure du temps, l'engineering de Microsoft, c'est-à-dire c'est fait par l'engineering, va automatiquement migrer son tenant sans que le client ait une opération. C'est pas une opération de migration, hein, c'est pas comme quand je migre d'on-premise vers 365. Là, c'est l'engineering qui va automatiquement faire cette opération de transfert d'un tenant d'une géographie à l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'engager sur du SLA, parce qu'on ne peut pas migrer tous les clients en même temps, et ça dépend aussi de la capacité d'accueil de nos data centers. Si on a des milliers de clients qui nous demandent la migration depuis, par exemple, Dublin, Amsterdam, vers la région France, ça peut mettre un certain temps. Donc aujourd'hui, je crois que, si j'ai bonne mémoire, dans les move programmes existants, on se donne jusqu'à 24 mois pour faire cette opération.
D'accord. Premier avantage qu'on voit à cette présence en France, c'est la géoréplication. La géoréplication, je rappelle, hein, par exemple, si on choisit un stockage de type GRS, Geo-Redundant Storage, on va avoir une réplication de nos données entre deux régions. Par exemple, quand on mettait nos données à Dublin, c'était répliqué à Amsterdam et réciproquement. Donc maintenant, on aura une garantie, n'est-ce pas, si j'ai bien compris, que nos données géorépliquées resteront en France ?
Exactement. Donc c'est les données, ce qu'on appelle dans le jargon ETREST, hein, qui seront garanties d'être répliquées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de backup par défaut fait par Microsoft entre des éléments que vous auriez mis sur un des data centers en France vers d'autres régions en dehors de la France. D'accord. Donc la seule infrastructure qui est mutualisée entre tous les data centers en France, c'est Active Directory. Donc il n'y aura pas d'instance dédiée d'Active Directory pour la France. Hein, c'est un peu différent du modèle allemand, où le modèle allemand est totalement isolé, totalement autarcique, y compris au niveau d'Active Directory. Là, on est ces nouvelles régions Azure font partie de la fabrique globale, ce que l'engineering appelle le public Azure, au même titre que toutes les autres régions dans le monde. Hein, j'en ai cité quelques-unes, le Canada, la Corée du Sud, demain l'Afrique du Sud, l'Angleterre, etc. Donc en Europe, toutes les régions hors l'Allemagne se partagent la même infrastructure Active Directory. Par contre, les données de votre compte de stockage, comme tu viens de le donner, ou vos machines virtuelles ou vos services seront bien instanciés dans les data centers France. Tous les services ne seront pas disponibles en France, et il y a encore des services globaux qui resteront des services globaux. D'ailleurs, quand vous allez sur le portail Azure, vous pouvez voir la liste des services dits globaux, la liste des services qui sont régionalisés, et la liste de tous les services qui seront disponibles en France. Là, c'est aussi une différence que vous pouvez avoir entre des data centers type l'Angleterre, France, Canada. C'est que l'ensemble des services que vous pouvez voir disponibles dans les grosses régions, les grosses géographies comme l'Europe, ne sont pas forcément tous disponibles au moment où on ouvre les services. Il y a un sous-ensemble. D'ailleurs, la cartographie des services disponibles par région est tout à fait transparente et disponible sur le portail Azure.
D'accord. C'était donc, ma question suivante. Ok.
Et une bonne idée de ce que pouvait attendre comme type de service pour la France, c'est d'aller voir aujourd'hui ce qui est disponible en Angleterre, modulo le fait que l'Angleterre a quelques mois d'avance sur nous, donc ils ont déjà rajouté quelques services entre le moment où ils ont ouvert au mois de septembre et le mois de juin, hein, puisque par exemple récemment, je cite un exemple, je crois qu'ils ont rajouté Azure Search. Azure Search n'était pas disponible au moment où ils ont ouvert les data centers en disponibilité générale, et les services sont rajoutés au fur et à mesure du temps. Donc quand on ouvrira les services, on aura au minimum, on le sait, des services du type Compute, Storage, Network, hein, tous les core services d'infrastructure seront disponibles. Les core services du type plateforme as a service, je pense à Website, API Apps, mobile Apps, Azure Key Vault, SQL Azure, Service Fabric, DocumentDB, etc. seront disponibles, mais vous n'aurez pas forcément tous les services nécessitant des gros clusters spécialisés du type Data Lake ou autre, hein, parce qu'il y a des dépendances entre les services, donc il faut un certain temps pour déployer ces services. Et encore une fois, ces services sont aussi disponibles depuis l'Europe. Donc il faut qu'on justifie le fait que non seulement on ait besoin de ces services en France, qu'il y ait suffisamment de volume pour pouvoir instancier, par exemple, un service du type Data Lake. Donc ces services arriveront probablement au cours du temps et seront vraisemblablement prioritisés en fonction de business case. Donc tous les pays n'ont pas les mêmes demandes. Il y a des pays qui sont plus avec plus de pression sur les services Advanced Analytics, d'autres plus de pression sur les services du type IoT, Advanced IoT. Donc on travaillera cette roadmap des services dans les mois qui suivent l'ouverture générale. Normalement en 2017, hein, puisque c'est ce qu'on a annoncé au mois d'octobre, la disponibilité initiale des services en 2017.
Donc, puisque tu parles d'une ouverture en 2017, est-ce qu'on peut attaquer la question du calendrier? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du calendrier?
Aujourd'hui, je ne peux pas être plus précis que l'annonce qui était faite, hein, disponibilité initiale en 2017. Ça veut dire que les premiers services du cloud Microsoft seront disponibles en 2017. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des services qui composent ce qu'on appelle le cloud Microsoft, à savoir Azure, Office 365, CRM Online par exemple, seront tous disponibles en 2017. Mais donc là, la priorité aujourd'hui, on est en train d'ouvrir et de recruter de manière très intensive des participants à un programme qu'on appelle l'Azure Preview Programme. Donc comme son nom l'indique, l'Azure Preview va permettre à nos clients et nos partenaires qui le souhaitent de pouvoir avoir accès et donc de tester en avance de phase les services Azure depuis les nouvelles régions France. Donc la particularité, c'est que l'usage de ces services pendant cette période de preview, qu'on estime durer à peu près 3 mois, ne sera pas facturé. En d'autres termes, les participants auront accès gratuitement aux services qui seront disponibles pendant la preview pendant une période de 3 mois.
D'accord. Donc ce programme de preview, qu'on soit bien clair, ne concerne que Azure.
Absolument. Il y aura pas de. D'accord. Il n'est pas prévu d'avoir de programme de preview, c'est-à-dire de tests en avance de phase gratuits, des services du type Office 365 ou CRM Online, par exemple. Ça ne concerne effectivement que Azure.
D'accord. Et donc, pendant 3 mois, toutes les ressources qu'on va héberger en France ne seront pas facturées.
Voilà. Donc, le principe, comment ça va se passer, on va s'inscrire dans ce programme de preview et on va créer. Donc, il y a un petit travail administratif d'échange de mails qui est nécessaire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Hein. Ceux qui seront intéressés pourront prendre position et s'inscrire via un petit formulaire dont on vous donnera le lien pour avoir accès à une petite webcast que j'ai enregistrée de 9 minutes à peu près qui donne le détail de la preview. Donc, je ne vais pas entrer dans toutes les arcanes de comment ça se passe concrètement pour créer cette...
Parce que tu l'as déjà dit 70 fois,
dit tout à l'heure. 70 fois minimum. Et par contre, le principe est le suivant. Il faut pour que vous puissiez voir les nouvelles régions dans votre portail Azure et qu'on puisse limiter cette visibilité à co-participant de la preview, il faut qu'on puisse, comme on dit dans le jargon, whitelister une souscription. Donc la souscription qu'on veut whitelister, seuls ceux qui sont détenteurs de cette souscription pourront voir dans leur portail Azure ces nouvelles régions. On va créer cette offre-là de manière sponsorisée. Ça veut dire que c'est une souscription un peu particulière dont on va charger le crédit de mémoire à 10 000 $, peu importe la somme. C'est-à-dire que le principe, c'est les services qui seront consommés pendant cette preview ne seront pas facturés ou ils seront déduits d'un crédit qu'on aura chargé sur la souscription. Donc le principe, c'est que vous n'aurez pas à faire un chèque à Microsoft pour utiliser ces services puisque ça sera couvert par le montant du montant de crédit qu'on aura mis sur cette souscription. C'est ça qu'on appelle une souscription sponsorisée.
Donc en fait, on va ajouter au client qui est inscrit à cette preview une nouvelle souscription, un nouvel abonnement Azure dans son compte Azure.
Et absolument. Alors, pourquoi on veut créer une souscription et donc ça va demander ce petit travail administratif de création de la souscription sponsorisée, de récupérer le numéro de souscription pour qu'on puisse la whitelister, c'est qu'on veut limiter l'usage de cette souscription sponsorisée au déploiement en France. En d'autres termes, on ne veut pas que vous utilisiez cette souscription, votre crédit, pour aller déployer 10 000 cœurs à Dublin ou Amsterdam. C'est interdit par le règlement, comme on dit. Donc voilà, d'où l'intérêt d'isoler cette souscription. Par contre, cette souscription, les solutions, les applications, les services que vous aurez déployés pendant la période des previews, à l'issue de cette preview, bien évidemment, vous avez deux choix. Vous pourrez choisir, c'était un bac à sable et vous laissez tomber ce que vous avez déployé. C'était juste pour faire des tests. Ou, ce qu'on souhaite, et c'est un des objectifs, au contraire, vous souhaitez garder en production ces éléments, ces services, ces applications déployées. Et à ce moment-là, on aura une transition naturelle vers un mode payant sans interruption de service. C'est-à-dire que c'est juste une opération de billing qui va se faire transférer par exemple votre souscription sponsorisée vers un EA ou vers une souscription payante, mais c'est une opération administrative qui ne nécessitera pas de migrer ou de désinstaller, de réinstaller les services. C'est ça qui est important, vous pourrez avoir une transition naturelle de vos services depuis une production pendant la preview à une production payante après la fin de la preview. Je pense que c'est assez important de comprendre ça.
D'accord, c'est-à-dire que la souscription en question va devenir une souscription normale, facturée normalement.
Si on choisit de la rendre effectivement opérationnelle, c'est-à-dire facturée à l'issue de la preview, effectivement.
D'accord. Mais si le client souhaite transférer ses ressources vers ses abonnements habituels, il pourra le faire comme on peut le faire aujourd'hui par des migrations de souscription à souscription, quoi.
Ouais, il y aura même pas forcément de migration au sens migration, c'est une migration de la partie administrative, mais c'est pas une migration des services. Les services resteront en production. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes pour transférer la souscription vers, par exemple, son enterprise agreement. Le raccrochage d'enterprise agreement. Il y a une opération à faire qui sera décrite. Donc les inscrits à la preview auront accès à un groupe Yammer. Ça fera partie du travail administratif qu'on aura à faire avec les participants. On va être inscrit à un groupe Yammer qui nous servira de moyen de communication avec les participants à la preview. Donc on a une personne de l'engineering qui s'appelle Andrés Juarez qui gère cette preview avec nous et qui est en prise directe avec le groupe produit. Donc c'est lui qui sera un peu l'interface pour répondre aux questions et pour vous communiquer l'information, la roadmap des services, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et comment marche la preview. Tout ce que vous voulez savoir sur la preview sera décrit dans ce qu'on appelle le preview playbook, dans un gros document PDF qui sera en anglais et en français, qui va décrire effectivement toutes les opérations et qui je l'espère, répondra à un maximum de questions. Et bien évidemment, le groupe Yammer sert aussi à échanger d'informations entre les participants de manière publique ou de manière via des messages privés si vous voulez pas partager vos questions avec tout le monde. Donc c'est vraiment ce groupe Yammer qui nous servira de communication pendant la phase de preview. Alors point important, la preview, au début de la preview, on n'offre pas de SLA. Ça, je pense que c'est important à comprendre. On n'offre pas de SLA pour la bonne raison qu'on va faire beaucoup de tests de BCDR, de Backup Disaster Recovery, pendant les premiers jours, premières semaines de la preview. Par contre, une fois qu'on a passé ces tests de BCDR, on pourra offrir du SLA. Parce qu'il faut bien comprendre que qu'on parle de preview, c'est pas une bêta test, comme on peut l'imaginer. J'ai eu beaucoup de questions. Oui, mais alors c'est une bêta test, je vais essuyer les plâtres. Non, le jour où les data centers vous voyez apparaître la souscription dans votre portail, c'est géré absolument comme les autres data centers dans le monde. On a exactement les mêmes exigences de SLA. Pourquoi on n'offre pas le SLA au début de la preview? C'est parce que justement on veut faire ces tests de BCDR. Après qu'on ait finalisé les tests de BCDR, on est à un niveau de SLA qui est le même qu'en Angleterre, Dublin, Amsterdam. La seule différence, c'est que pendant la preview, on ne remboursera pas le montant d'une facturation puisque la facturation sera toujours à zéro. Donc il n'y aura pas de SLA ce que moi j'appelle le SLA business, mais il y aura effectivement un SLA technique dans la mesure où les régions françaises seront gérées exactement de la même manière qu'elles le seront lorsqu'on passera en disponibilité générale. C'est pas une bêta test, hein, on n'est plus en train de construire l'avion en vol lorsqu'on ouvre la bêta test. On peut encore continuer à délivrer des services, c'est-à-dire que le jour 1 de la preview, tous les services ne seront pas forcément disponibles. Hein. Vous aurez minimum compute, network storage, parce que ça, c'est la fondation pour que les autres services soient construits. Donc pendant le temps que va durer la preview, on peut continuer à installer des services, mais les services qui sont installés sont des services finaux. Les services qui sont finis, qui sont les mêmes, qui sont en production dans les autres régions dans le monde. Hein. C'est pas une preview d'un service, c'est une preview d'une région, ce qui est un petit peu différent. Donc, ce qui est important pour nous pendant cette preview, c'est de vous permettre de nous donner du feedback, à la fois bien sûr sur l'utilisation des services, mais également sur la feuille de route des services dont vous aurez besoin pendant la preview. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important ? Donc, c'est aussi une façon d'échanger sur la nature de vos besoins pendant cette preview. Et on l'espère aussi d'avoir déjà des solutions déployées lorsqu'on ouvre le service à tout le monde. Hein, lorsque les régions France ont officiellement ouvert, on a déjà des solutions qui sont déployées et disponibles en production. Dans les data centers français. C'est les deux grands objectifs de cette preview. C'est feedback et bien sûr avoir des solutions qui fonctionnent dès l'ouverture du service à tout le monde.
Est-ce que ces abonnements de preview sont soumis à des quotas de ressources ou est-ce que...
Alors, évidemment, si vous chargez pas. En théorie, non. Évidemment, si vous voulez utiliser 20 000 cœurs pour faire des tests, je sais pas, du calcul parallèle ou quoi que ce soit, on va peut-être l'indiquer qu'on prévoit un petit peu, qu'on anticipe un peu, mais en principe, on n'a pas de quota de ressources. Hein. Ça se fait vraiment via des dialogues avec l'engineering. Hein, donc, on est capable d'être assez flexible sur la nature de ce qu'on peut proposer. Non, parce que ce soit effectivement raisonnable.
Mais... Avec un abonnement sur lequel on ne paye pas les consommations en France, on peut aussi envisager des tests de montée en charge de certains services.
Oui, mais c'est l'opportunité, justement, c'est l'opportunité, le fait de ne pas être facturé sur ces services, aussi de faire des tests, pourquoi pas aussi profiter de ça, de faire une migration, parce que pendant que, voilà, si vous avez des ressources que vous payez d'un côté et que vous les rapatriez de l'autre, hein, on a vu certains acteurs qui sont très intéressés à rapatrier leurs solutions plus vite possible parce que par exemple c'est éditeurs de logiciels qui servent le secteur public donc ils savent qu'ils vont rapatrier assez vite leur solution en France. Le fait de pouvoir faire ces tests de migration par exemple de Dublin Amsterdam vers la France et en parallèle pendant le temps de mise au point de pouvoir bénéficier gratuitement de ces services ou des clients aussi, un autre exemple, des clients qui font une migration de leur data center de certaines solutions on-prem vers le cloud public, pendant cette phase-là ils peuvent faire leurs tests, migrer tranquillement sans être facturé sur les ressources. Et après, effectivement, une fois que la migration est terminée, partir en production de manière normale en étant facturé à l'issue des 3 mois de la preview. Donc, on voit ces cas de figure où, effectivement, le fait... On ne met pas trop en avant la gratuité des services, ce n'est pas ça qui est important, je pense, mais dans certains cas, ça peut être important pour des phases de migration puisqu'on n'a pas payé les deux ressources en parallèle.
Tu parlais d'une durée de preview donc de 3 mois.
Oui.
On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va commencer, mais elle va commencer entre cet été.
On espère fin d'été. On n'a pas de date exacte, ça dépend aussi de. Vous savez comment se fonctionne l'engineering. Hein. On ne peut pas se committer sur une date. on commencera dès qu'on sera prêt à ouvrir les services. Encore une fois, lorsqu'on ouvre les services, ils sont considérés comme ouverts presque en disponibilité générale, sauf qu'ils sont encore limités aux participants à la preview, mais il faut que les services soient finalisés. Hein, on soit prêt à ouvrir avec une qualité de service et le service est fini quand on l'ouvre, donc on l'ouvrira quand le service sera effectivement prêt.
Voilà, on peut s'inscrire maintenant à la preview tout de suite.
Voilà.
On peut communiquer, échanger avec les équipes, etc. déjà tout de suite. Par contre, la preview commencera effectivement dans quelques semaines, mois, etc. Durera 3 mois. Qu'est-ce qui se passera si le service ouvre pour tout le monde, en General Availability, avant la fin des 3 mois
Tu veux dire, si on n'a pas... Oui, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez compris, le service étant prêt, on peut décider d'ouvrir, j'allais dire, à tout moment, une fois minimum que les tests de Backup Disaster Recovery ont été effectués. Les participants à la preview bénéficieront de leur abonnement sponsorisé, quoi qu'il arrive.
D'accord.
Donc au minimum 3 mois. Et si on devait prolonger la preview au-delà de 3 mois, la durée de la preview serait prolongée d'autant.
Voilà, donc un client donc c'est au minimum 3 mois. Peut tout à fait prévoir un programme de test, etc., 2-3 mois. Il pourra sereinement faire son test.
Absolument.
Pendant les 3 mois alloués.
Exactement.
Même si ça ouvre avant. Ok, super. À qui ça s'adresse de préférence ce programme de preview? Est-ce qu'on s'adresse aux grandes entreprises, petites entreprises, start-up, individus, passionnés? Enfin, quelle est la cible en gros?
J'allais dire que c'est un peu comme Azure, c'est à toutes ces cibles-là. Vous voyez la diversité sur Azure, on a de la start-up au très très grand groupe, en passant par des consultants indépendants. Je pense que pour la preview, on est à peu près dans la même logique, hein, puisqu'on va l'ouvrir assez largement, on va communiquer dans les jours qui viennent assez largement sur le processus qui permettrait à tous ceux qui sont intéressés de pouvoir participer, donc s'inscrire. Donc derrière, il y aura un processus, on remet dans le jargon de onboarding, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail qui va consister à recueillir l'information permettant de créer l'offre sponsorisée, permettant de créer votre souscription, de retourner Subscription ID. Donc il y a un échange de mails et d'informations, les comptes email qui doivent être inscrits dans le groupe Yammer pour pouvoir avoir accès au groupe Yammer qui nous permettra d'échanger l'information, etc. Tout ce travail d'onboarding, c'est ce qu'on doit faire entre maintenant, j'allais dire, et le moment où la preview sera ouverte à tout le monde. Hein, puisque, encore une fois, pour pouvoir accéder à la preview, il faut qu'on ait une offre sponsorisée qui a été créée en bonne et due forme et qui a été whitelistée par l'engineering pour vous donner accès. Donc, ce travail administratif, c'est à faire entre maintenant, je dirais, et le début de la preview.
Mmh. OK. Pour finir, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus fréquemment de la part de tous les clients qui sont inscrits aujourd'hui? Il y a des questions particulières sur... ou alors ça se résume surtout à des questions du type est-ce que vous aurez tel service dans la preview?
Les questions, j'en ai déjà évoqué assez souvent. Ouais. Hein, c'est quelles sont la nature des services qui vont être disponibles pendant la preview, combien de temps va durer la preview, qu'est-ce qui se passe à la fin de la preview? Donc je vous ai j'en ai un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a du SLA pendant la preview? Donc là aussi je l'ai évoqué.
Parfait.
Donc voilà, non, c'est plutôt. Et puis comment okay. se passe le processus d'onboarding? Encore une fois, ceux qui sont intéressés, donc vous aurez les informations pour accéder au formulaire vous permettant de soumettre votre candidature à la preview. Et dès ce premier formulaire, vous aurez accès à une petite webcast que j'ai enregistrée de 8 minutes 30 qui va vous expliquer les détails de la preview. Je vous ai déjà donné pas mal d'informations qui seront également communiquées dans cette webcast, mais c'est ce travail-là de formulaire initial qui va quelque part initialiser votre intérêt à la preview et qui va déclencher l'échange de mails futur dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, c'est pas le fait de remplir ce formulaire ne va pas vous donner automatiquement par miracle accès à la preview Azure, mais va vous inscrire officiellement dans une liste qui va déclencher ce fameux échange de mails processus d'onboarding qui à la fin arrivera à créer votre souscription, à whitelister votre souscription et à vous donner accès à la preview. Donc il y a un petit travail d'échange de mails qui va être fait entre... Donc remplissez bien avec les bons contacts ceux qui sont intéressés ce formulaire initial, parce que c'est le contact, le email que vous allez donner initialement qui va nous permettre de communiquer et de vous communiquer d'autres formulaires qui, là, pour le coup, vous permettront de créer la vraie souscription sponsorisée. Donc ce mail initial est important, puisque si on n'a pas le bon contact au début, ben, on ne pourra pas vous recontacter pour vous envoyer les bons formulaires pour, cette fois-ci, vous inscrire officiellement à la preview.
OK. Quelque chose d'autre à rajouter sur ce programme et sur...
Non, mais je pense que voilà, je sais pas si je communique le AK.ms ou ça sera dans le...
on peut le dire, hein, c'est, voilà. Si c'est un AK.ms assez simple.
Donc on a fait un petit raccourci pour accéder au formulaire de soumission de votre candidature si vous êtes intéressé. Donc c'est AK.ms/France Preview. En un seul mot, donc France Preview, P-E-R-V-I-E-W, et vous accédez au formulaire qui lui-même vous envoie sur la petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et à partir de là, okay. vous aurez pris position pour qu'on puisse vous recontacter avec le formulaire de collecte et des informations qui vont nous permettre de créer cette offre sponsorisée. Voilà, c'est très simple.
AK.ms/France Preview.
France Preview en un seul mot. Voilà.
Merci beaucoup, Marc.
Merci, Pascal.
Et puis, on en reparlera, j'espère, d'ici l'ouverture, donc avant la fin de l'année 2017.
Bah, j'espère bien. Merci.
Merci, au revoir. Eh bien, Maxime, on se retrouve pour la suite de ce podcast avec quelques news. Salut, Maxime.
Bonjour à tous. Salut, Pascal.
Donc, on va faire quelques petites news, là, puisque, allez, on va se faire une petite demi-heure de nouvelles assez récentes, plus ou moins récentes. Donc, je commence.
Mais vas-y.
Allez,
à toi l'honneur.
Je commence avec une news qui date du 9 juin, donc de la semaine dernière. Et c'est un petit service grand public qui est assez intéressant, qui s'appelle Docs.com. Enfin, grand public, il est utilisé un petit peu par tout le monde, hein, professionnel et particulier, pour partager des documents Office, donc des documents Word, Excel, PowerPoint. Et le plus souvent, on va là-dedans partager des PowerPoint. On peut faire des librairies, on peut les classer par dossier, etc. On peut partager également des sway dans Docs.com. Et moi, je trouve ça très, très, très pratique pour présenter un PowerPoint, par exemple, après une présentation en public. On dit, voilà, c'est sur mon Docs.com. N'hésitez pas à les télécharger ou consulter le PowerPoint.
Ouais, c'est ce qu'on fait pour AOS. Hein. À chaque événement, on crée un petit espace pour l'événement en question. On mettait tout dessus. Et donc, je te laisse annoncer
exactement
la mauvaise nouvelle.
Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que le service va être arrêté. Il sera arrêté dans l'année. Alors, attends, je...
Ouais, c'est ça. C'est décembre. 15 décembre de mémoire. Ouais, c'est ça. 15 décembre.
Voilà, 15 décembre.
À partir de 15 décembre, le service n'est plus disponible du tout.
Donc pourquoi ? C'est assez simple à comprendre. Hein. On a récemment racheté la société LinkedIn. Dans LinkedIn, il y a un service qui s'appelle SlideShare, qui est utilisé par beaucoup plus de monde que Docs.com, qui est très utilisé dans toutes les communautés. Donc. Et c'est assez logique de se concentrer sur un système de partage de présentation, documents, PDF, etc., etc. Donc, ok, soit. Et donc, dans l'article qu'on va associer, il y a un échéancier qui va expliquer comment les choses vont se passer. Donc, si vous avez des documents dans Docs.com, regardez cet échéancier. Alors, pour avoir un ordre d'idée, donc à partir de maintenant, du 9 juin, on n'aura plus la possibilité de créer de nouveaux comptes. Ça, c'est de bonne guerre, puisque le compte est annoncé le service est annoncé comme bientôt terminé.
Ouais, ce serait dommage de se lancer dessus maintenant, quoi.
Tout à fait. À partir du 19 juin, donc, si vous avez un compte professionnel avec lequel vous utilisez Docs.com, un compte typiquement Azure AD, Office 365, ce genre de choses-là, il y a la possibilité que l'administrateur de votre annuaire, donc votre admin d'entreprise, s'occupe de la migration pour vous et migre vos données automatiquement dans du OneDrive for Business de votre part, quoi, dans votre organisation professionnelle. Donc surtout, si vous êtes administré, si vous êtes dans ce cas-là, ne touchez à rien et ou essayez de vous renseigner auprès de vos admins Office 365 pour voir s'ils vont migrer les données pour vous.
Alors, il y a une sorte de petit process qui existe déjà pour migrer vers OneDrive.
Exactement. Donc, ce process est déjà en ligne.
Version OneDrive perso, hein, par contre, pas OneDrive for Business.
Exactement. Donc, si on utilise un MSA, un compte Microsoft personnel pour accéder à nos documents Docs.com, ce qui est mon cas par exemple, jusqu'à mi-décembre, on aura la possibilité de migrer, donc de déclencher une migration automatique vers notre OneDrive personnel. Donc ça, ça sera ouvert jusqu'au 14 décembre.
Ouais, donc mine de rien, on n'a pas beaucoup de temps, hein, quand on regarde. Bon, on va pas compter juillet, août, parce que c'est assez compliqué, c'est les vacances. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, si vous avez une stratégie à mettre en place, il faut s'y prendre dès maintenant.
Ouais. Et à partir du 1er août, il n'y aura plus possibilité de publier de nouveaux documents ou de modifier des documents existants dans Docs.com. Et le 15 décembre, comme on a dit, le 15 décembre, le site ne sera plus accessible. Ce qu'il faut voir également, c'est que le site ne sera plus accessible au 15 décembre, mais les URL qui auront été migrées par les deux méthodes précédentes, hein, les méthodes soit administrateur Office 365, soit personnel migré vers OneDrive, donc les liens existants vers les documents seront toujours opérationnels et redirigeront vers les documents migrés. Et cette redirection, par contre, expirera également, mais beaucoup plus tard, ça expirera mi-mai 2018. Donc on a le temps de voir venir et de rediriger nos utilisateurs éventuellement vers les nouveaux liens des documents migrés.
Ouais, ce qui est la date la plus intéressante, je pense, pour les IT et les admins surtout, c'est vraiment le 19 juin où on va être capable de migrer le contenu de notre tenant Office 365 vers OneDrive for Business, justement.
Tout à fait.
Donc la procédure n'est pas encore sèche. Voilà, la page qu'on vous fournira sera mise à jour quand le process pour les entreprises sera clairement défini. C'est-à-dire le 19 ou peut-être quelques jours après le 19, quoi.
Voilà
Ah,
pour.
donc c'est dommage, hein, parce que le service était quand même sympa. C'était assez bien foutu. Mais bon, après, c'est logique, hein, la rationalisation de service. Qui fait un petit peu doublon avec SlideShare. Voilà. C'est la
Ouais,
vie.
puis c'était gratuit, donc bon. Ouais.
Aussi, ouais.
Hein.
Bah, SlideShare aussi, hein, c'est gratuit.
SlideShare aussi. Donc, Maxime, tu voulais nous parler d'un truc qui m'intéresse particulièrement et qui concerne OneDrive.
Ah, c'est ça, ouais. Alors, à partir. Je pense qu'on a quelques Windows Insiders qui doivent nous écouter. Bon, si vous faites partie du programme, vous savez qu'on a des builds assez souvent. La dernière en date, c'est la build 16.215. Et à partir de cette build-là, Microsoft est en train de déployer un nouveau client OneDrive de manière progressive dans les prochains jours. Hein, donc c'est en cours. Et donc le but, c'est de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Files on Demand dans OneDrive. Alors qu'est-ce que c'est de manière simple? C'est la possibilité de voir, d'accéder et d'éditer des fichiers stockés dans OneDrive sans les synchroniser sur votre poste. Du coup, le client OneDrive va être capable d'afficher l'intégralité des fichiers hébergés dans OneDrive. Et dans votre explorateur Windows, vous aurez un petit statut qui vous dit est-ce que c'est un fichier cloud, est-ce que c'est un fichier synchronisé. Et vous allez avoir cette granularité de choisir quel fichier je synchronise ou pas. Et si vous synchronisez pas le fichier, c'est pas très grave, vous le voyez quand même dans votre Explorer et vous pouvez travailler dessus comme si en fait il était présent sur votre machine.
Voilà, c'est quelque chose qui existait sous une forme quasiment identique, quasiment parce que pas exactement, dans Windows 8.1, qui a disparu avec Windows 10 et qui a énervé beaucoup de monde, dont moi. Et ce qui fait que ça a été la fonctionnalité la plus demandée dans le user voice de OneDrive
Ça m'étonne pas.
depuis le début de Windows 10, quoi. Et là, enfin, voilà, ça vient. C'est dans une insider, donc ça veut dire que ce sera dans la version Fall Creators Update, donc qui sortira en fin septembre ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Et si vous êtes insider et que vous ne voyez pas encore le client, on vous mettra le lien. On a la possibilité d'aller le télécharger et le mettre à jour à la main. Parce que sinon, en fait, il déploie la mise à jour du client OneDrive sous forme de vague. Donc si vous l'avez pas tout de suite, soit attendez, soit installez-le à la main via le lien qu'on donnera.
Alors j'ai bien lu l'article, ça concerne à la fois OneDrive personnel, mais aussi OneDrive for Business et les SharePoint donc professionnels qu'on synchronise sur nos postes, parce que on utilise le même client côté Windows 10.
Ouais, complètement.
Voilà,
Ça
ça.
touche à tout ce que le client OneDrive en fait est capable de synchroniser au final.
Et donc ceux qui ont un téra de stockage utilisé dans OneDrive n'auront plus à sélectionner les répertoires qu'ils veulent synchroniser sur leur petite tablette qui n'a que 128 gigas de SSD.
Ouais.
Ils verront tous leurs fichiers. Et donc en fait, il y a trois statuts au fichier. C'est assez bien fait ce qu'ils ont fait là. Il y a bon, le fichier qui est online, only, donc qui n'est pas sur notre PC. Il y a le fichier sur lequel qui était dans cet état-là, sur lequel on a double-cliqué, et hop, il s'est téléchargé automatiquement et il est passé dans un état downloaded ou j'oublie le
Ouais,
nom, mais c'est le deuxième état.
c'est une sorte de cache en fait, je pense.
Bah, c'est qu'il est en local en fait. Il est dans
Ouais.
l'état locally available. Et puis il y a le troisième état qui est le always available. Et cet état-là, en fait, c'est quand on sélectionne des répertoires et on dit que ça, on le veut toujours systématiquement sur place, quoi. Comment on peut dire? Synchronisé sur notre stockage local. Donc ça a pris du temps, je pense, parce qu'il a fallu, je pense, utiliser des fonctionnalités de NTFS et faire en sorte que les fichiers qui ne sont pas sauvegardés localement prennent pas trop de place quand même, parce que quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas là, ils prennent un tout petit peu de place. Il y a au moins une vignette pour l'explorateur, il y a un nom, il y a des métadatas, quoi.
Il y a beaucoup de traitements en amont et derrière. Alors, par contre, quand on dit client OneDrive, on parle bien du client OneDrive entre guillemets next-gen, celui qui est intégré à Windows 10. Si vous utilisez encore le client OneDrive livré avec Office, vous n'aurez pas cette fonctionnalité-là. Donc faites attention, parce que des fois quand on installe toute la suite Office, en fait on a les deux clients qui cohabitent, et parfois certains utilisateurs, quand c'est à eux de configurer leur client OneDrive sur leur machine, certains utilisent bien le client intégré à Windows, le Next Gen, et d'autres continuent, peut-être par méconnaissance, utilisent le client OneDrive, on va dire classique, le vieux, qui fait partie de la suite Office. Donc c'est bien des fonctionnalités qui sont dans le client next-gen intégré à Windows 10.
Ok. Je reviens un petit peu dans le passé, à l'époque de la build, le 11 mai, puisque à ce moment-là, on a annoncé la future mise à disposition dans Windows 10 de plusieurs distributions Linux, en plus d'Ubuntu. Vous savez que sur Windows Services for Linux, WSL, on a jusqu'à maintenant une distrib Ubuntu qui est passée là dernièrement en 16.04, je crois. Je dis pas de bêtises. Hein. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est 16.04.
Ouais, je peux pas t'aider.
En fait, je la lance là, et si je tape uname moins A, non, c'est pas uname moins A, c'est lsb underscore release moins A, il me dit que c'est la 16.04.2. Donc c'est ça. Donc en plus de ça, on va permettre donc d'installer en plus ou à la place, comme on veut, Fedora ou SUSE. Donc on pourra faire cohabiter les trois distributions, Ubuntu, Fedora et SUSE, ou on pourra en choisir une. Et la nouveauté également, c'est que les trois distributions seront disponibles dans le Windows Store, et donc via l'application Windows Store de Windows 10.
C'est top ça.
Ce sera beaucoup plus simple à installer.
La question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que c'est disponible sur Windows 10 S ?
Alors, cette semaine, on s'est rencontré avec des MVP. C'était cette semaine ou la semaine dernière ? Je sais plus.
C'était il y a quelques jours, oui.
Il y a quelques jours.
Ouais, c'était mardi, je crois.
Et la question a été évoquée en réunion, et la réponse qui a été donnée n'était pas la bonne, en fait. Donc la réponse est non.
Alors en fait, la question qui avait été poussée en dehors de la partie Linux aussi, c'est: est-ce qu'on aura les mêmes applications dans le store entre un Windows 10 classique et un Windows 10 S ? Par exemple, il y a Microsoft qui a annoncé la dispo bientôt de iTunes, la dispo de Spotify, qui sont à la base des applications desktop, qui sont, entre guillemets, je simplifie, repackagées pour être déployables, installables dans le Windows Store.
Donc, ce sont des applications desktop.
Donc, en fait, la grosse inconnue, c'était: est-ce que ça fonctionne sur Windows 10 S aussi,
alors,
d'application.
Ouais. Et donc, l'article que je mettrai et qui parle de ça, précisément de ces deux questions-là, explique bien les choses. En fait, Windows 10 S, c'est fait pour les utilisateurs non techniques. Donc, ce sont des utilisateurs qui ne sont pas des développeurs, qui ne sont pas des admins, qui ne sont pas des IT pros et qui prennent leurs applications dans un store, les installent et puis c'est tout. Donc pour ces utilisateurs-là, il faut des applications qui sont très bien packagées, très bien finies, et surtout qui ne leur permettent pas de prendre des risques, genre aller toucher le registre ou ouvrir une ligne de commande pour faire des trucs qu'ils ne sauraient pas, sur lesquels ils pourraient prendre des risques sans faire exprès. Et donc, ce sont des applications principalement UWP, donc des applications modernes, mais également les applications Desktop Bridge dont tu parles, donc les applications comme également Evernote, ce genre de choses-là. Parce qu'elles sont validées, sélectionnées et développées par des gens auxquels on a confiance, pleinement confiance, pour faire des applications qui ne font pas prendre de risques aux utilisateurs. Donc oui, les applications ex-Centennial, mais Desktop Bridge dans le terme officiel, seront disponibles pour Windows 10 S. Par contre, tout ce qui est Shell, PowerShell, CMD, et l'échelle Linux Bash donc de Ubuntu, de SUSE et Fedora ne seront pas disponibles sur Windows 10 S.
Donc dans ce cas-là, les personnes pourront faire l'upgrade vers, je crois que c'est Pro, c'est ça ?
Tout à fait,
vers Windows 10 complet, Windows 10 S, hein, Windows 10 classique Pro,
ouais.
Du coup, pour bénéficier de ce genre de fonctionnalité.
Voilà.
Ce qui permet d'avoir un Surface Laptop.
Donc si vous avez un Surface Laptop, hop, la première chose à faire, passer à un vrai Windows
10. C'est ça, si on a les licences, hein, bien sûr.
Et un vrai Windows 10. Ouais. Et ceci sera gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Gratuit, c'est-à-dire l'upgrade ?
L'upgrade.
Ah ouais ? Mmh. Ah, d'accord, sympa ça.
Et gratuit jusqu'à fin 2017. Alors je dis ça de mémoire, mais je pense pas me tromper.
Ok. Donc vous savez ce que vous avez à faire si vous avez. Est-ce qu'on peut faire un rollback ça ? Parce qu'on parle souvent d'upgrade dans le sens Windows 10 S vers la version Pro. Est-ce qu'on peut faire une machine arrière peut-être en restaurant le système quand, si on fait un reset du PC, en quelle version ça revient ? Je sais pas.
C'est une bonne question.
Est-ce que
quelqu'un voudrait passer de Windows 10 à Windows 10 S ?
Ce serait bête, mais bon. Sait-on jamais.
Pour donner le PC à sa grand-mère, peut-être, ouais.
Peut-être, ouais, par exemple. Hein. Mm. Par exemple.
Ouais,
ça éviterait d'avoir à faire comme moi, de faire une passe sur le PC des parents et du frère pour aller nettoyer tout ce qui a été installé par-dessus et qui plante le poste, quoi. Du coup, pour le coup, Windows 10 S, pour eux, ce serait parfait.
Ouais. Certains ont eu des Surface RT à l'époque.
Ouais, mais j'en ai une, hein. J'ai la Surface RT, la toute première. Enfin, de toute façon, il n'y en a eu qu'une, hein, je crois.
Oui, il n'y en a eu qu'une, ouais.
elle est au fond de mon placard, et je t'avoue que, à l'époque, et d'ailleurs, c'était un article que j'avais fait sur mon blog, j'avais réussi à la bidouiller pour la joindre à un domaine Active Directory, en bidouillant le registre, en modifiant des informations. Et ça fonctionnait, hein, ça fonctionnait nickel. On pouvait appliquer des GPO, on pouvait se connecter avec un compte de domaine sur du RT. Et au final, ça a été un peu mis de côté, hein, Windows RT.
Autre news plus récente, celle-ci, puisqu'elle date de la semaine dernière, le 8 juin, le support de OpenBSD dans Azure. Donc on sait que depuis un moment déjà, on supporte FreeBSD dans Azure. Il y a une image qui est dans le marketplace, qui était jusqu'à maintenant en 10.3 et qui est passé là en version 11. Donc on peut installer FreeBSD version 11 depuis le marketplace. Donc là, ce qu'on vient d'annoncer la semaine dernière, c'est le support de OpenBSD. Donc il n'y a pas encore une image de OpenBSD pure dans le marketplace. Par contre, il y a eu un. C'est le fruit en fait d'un travail avec un partenaire qui s'appelle. J'ai oublié son nom parce que son nom n'est pas simple. Il s'appelle SDNERA. ESDENERA. Ils font un firewall qui s'appelle SDNERA Firewall 3. Et c'est un firewall qui est. Sous la forme d'une appliance qui fonctionne sur OpenBSD. OpenBSD, c'est réputé être le Unix, basé sur BSD, le plus sécurisé au monde, le plus fiable, le plus stable. C'est pour ça qu'il est utilisé pas mal pour des appliances de sécurité.
Ouais.
Et SDNERA, donc, a travaillé à la mise à disposition donc, de son image de firewall dans Azure. En nous aidant, en participant à l'adaptation de l'Azure Agent, donc le ex-Windows, Linux Azure Agent, pour OpenBSD. Donc en plus de ça...
C'est la dernière version, du coup, qui sera disponible ?
Ah, laquelle version d'OpenBSD ?
Ouais, de mémoire, c'est la 6.1 qui a été publiée il n'y a pas très longtemps.
Alors c'est la 6.1.
C'est la 6.1, c'est ça ?
Ouais, 6.1. Okay. Donc si vous voulez installer un OpenBSD dans Azure, donc il y a une documentation sur le site de Microsoft dans la doc d'Azure qui vous explique comment préparer votre image de OpenBSD, comment lui ajouter donc l'agent Azure et comment envoyer vers Azure votre image. Donc comment faire le VHD en gros et puis l'uploader
Et tu as une date pour la dispo de l'image dans le marketplace? Ça n'a pas encore été annoncé?
Non, c'est pas annoncé ça.
D'accord. Bon, ça devrait pas tarder, je pense.
Je pense, oui. Il y a pas de raison.
Pas de raison qu'il le fasse pas.
Il y a pas de raison, c'est de l'open. Donc voilà, FreeBSD et OpenBSD, donc il y a pas que Linux dans la vie.
Ouais. Alors, si on reste dans le sujet Azure, il y a quelques podcasts précédents, tu nous avais parlé de Azure CLI. Est-ce que tu peux peut-être rappeler très rapidement ce que c'est qu'Azure CLI?
Ah oui, effectivement, Azure CLI ou Azure CLI, c'est la ligne de commande Linux pour, enfin multiplateforme plutôt, pour utiliser Azure, donc pour utiliser l'API REST d'Azure. Donc c'est la commande qui s'appelle AZ, qui s'écrit AZ dans Linux ou sur votre Mac, qui est écrite en Python, en version 2. La version 1 qui s'appelait Azure était écrite en Node.js. Et la V2, qui s'appelle AZ, est écrite en Python, fonctionne sur tous les Linux et macOS. Elle s'installe en une ligne de commande, enfin c'est très, très simple à installer. Et voilà. Et donc pourquoi tu voulais me faire parler de Azure CLI?
Bah, tu dois savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le nouveau portail? Bon, il y a quelques temps quand même. Ça date de mai, hein, c'est ça?
Ouais, ça date du mois de mai. Ça date pareil de la build 2017, donc vers le 10-11 mai de cette année. Et donc ce qu'on a annoncé, c'est une public preview de Azure Cloud Shell. Alors c'est quoi Azure Cloud Shell? C'est un bouton qu'on retrouve en haut du portail Azure.
Et au départ, quand ils l'ont déployé, moi j'avais même pas fait attention au bouton, mais c'est vrai que je l'ai découvert en cliquant sur les notifications, c'est juste à côté des notifs.
Hein. Voilà.
Et effectivement, j'ai cliqué dessus et j'ai découvert Azure Cloud Shell.
Et voilà, ça nous ouvre donc un shell Linux directement dans la fenêtre du portail, dans la page du portail, quoi. Ça sépare la page en deux et le bas donc devient un shell, un bash avec. Enfin, un bash. Sur lequel la ligne de commande Azure, donc le AZ, est déjà authentifiée sur notre abonnement Azure. Donc ce qui est super pratique parce que il suffit de cliquer sur un bouton, ça ouvre le shell et on a directement les commandes du type AZ VM list, etc. pour manipuler nos objets, nos ressources Azure.
Alors du coup, il prend quelle subscription par défaut? Il prend quelque chose ou... Il faut quand même lui indiquer de manière explicite une subscription pour aller lister nos VM, par exemple.
Bonne question. Je sais que moi, j'ai plusieurs abonnements et dans tous mes... Enfin, à chaque fois que j'utilise cette ligne de commande, je commence par configurer sur quel abonnement je travaille.
Ok.
Donc, je suppose que ça peut être pareil sur le Azure Cloud Shell. J'avoue que je ne l'ai pas encore utilisé tous les jours parce que j'ai le bash sur Windows, quoi, le Ubuntu dans Windows systématiquement, ou quand j'utilise pas Windows, bah j'ai installé le Azure CLI nativement. Quoi.
Ouais.
Donc j'en ai pas franchement besoin, mais c'est vrai que si on ne l'a pas en local et qu'on veut faire une manip rapide, c'est pratique. C'est pratique d'autant plus qu'il y a la possibilité de le configurer avec un stockage permanent, persistant, et donc on peut conserver quelques scripts, quelques configurations, éléments de configuration. Clé SSH, etc., puisque on a un stockage persistant qui est dans notre compte, donc a priori protégé des yeux indiscrets.
Ouais, il me semble qu'on est obligé hein, de créer ce compte de stockage par contre, si on veut utiliser le service. C'est de mémoire, quand j'avais lancé Cloud Shell pour la première fois, il m'avait demandé de créer un compte de stockage pour pouvoir continuer.
D'accord. Donc pour stocker du notre coup, profil.
Bon, après, je pense que c'est, au niveau facturation, ça ne doit pas être grand-chose.
Non.
D'où aussi ma question sur quelle subscription on va s'appuyer pour créer ce compte de stockage. Je t'avoue que je n'ai pas exploité en fait, le sujet non plus à fond, mais ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne.
Oui, c'est ouais. Une question pertinente.
Si on peut peut-être c'est peut-être à la sélection de... la section du storage account, parce que moi je le vois, il me l'a fait sur ma subscription, on va dire classique, mais bon, voilà, sujet à creuser. En tout cas, c'est bien sympa comme fonctionnalité.
Ouais. Ouais. C'est super pratique. C'est super pratique. On ne dira jamais assez que tout ce qu'on peut faire en graphique, on peut le faire en ligne de commande, mais la réciproque n'est jamais vraie. Donc, il faut maîtriser. Il faut connaître un peu au moins ce qu'on peut faire en ligne de commande.
Ouais.
C'est plus utile que les interfaces graphiques.
C'est clair.
Deuxième point concernant Azure Cloud Shell, on a annoncé donc le 23 mai, donc c'est plus récent, une private preview cette fois-ci, enfin une preview limitée, une preview.
On fait du franglais à force, hein, ouais. C'est clair.
De PowerShell dans Azure Cloud Shell. Donc si vous êtes allergique à Bash et à Linux, ben vous allez retrouver votre PowerShell. Et vos chers modules Azure dans PowerShell.
Ouais, donc si vous voulez vous inscrire à la private preview, vous pouvez directement passer par le portail Azure, hein, cliquer sur le bash et puis il vous propose PowerShell en coming soon avec un lien pour aller remplir le formulaire de la private preview.
Donc voilà, très pratique.
Voilà, à tester aussi.
Ouais. Donc Maxime, tu voulais nous parler de ton domaine de prédilection, donc
alors c'est une petite actualité, hein, qui est sortie il y a quelques jours. Alors j'espère que vous avez tous écouté notre précédent podcast qui parlait en détail de la mobilité, notamment de Microsoft Intune. Alors il faut savoir que dans Microsoft Intune, quand on veut vérifier en fait la conformité d'un appareil pour qu'il puisse accéder aux services qu'on lui propose, on a des stratégies de conformité. Par exemple, on va dire j'autorise les smartphones qui ne sont pas routés ou jailbreakés, ou alors le smartphone doit absolument avoir un code PIN pour s'enrôler, un code PIN complexe de tant de caractères, etc. C'est ce qu'on appelle des stratégies de conformité. Si le périphérique n'est pas considéré comme conforme, il n'a pas le droit d'accéder aux ressources que Intune lui propose. Ça peut être des applis, ça peut être un profil VPN, Wi-Fi, etc. Alors, il faut savoir que par défaut, dans Intune, on a un certain nombre de règles pour mettre en place cette conformité-là. Mais on a aussi la possibilité, dans le nouveau portail Azure et Intune, d'étendre ces fonctionnalités à des services tiers dont Microsoft est partenaire et a travaillé avec pour faire une sorte de connecteur pour que les informations d'un périphérique qui s'enroule dans Intune puissent remonter dans ce service cloud. Et bien, on va pouvoir créer des règles de conformité beaucoup plus avancées que ce qu'on peut faire dans Intune. Et ensuite, une fois qu'on a traité ces règles de conformité dans l'application partenaire, bien, le périphérique va être capable d'accéder aux autres ressources qu'Intune lui propose. Donc Microsoft a, alors de mémoire, on a un partenariat avec, pour l'instant, avant l'annonce, on avait deux providers tiers, qui étaient Lookout et Skycure. Et donc là, on a un troisième qui vient rejoindre la liste, qui s'appelle Zimperium. Voilà, si vous avez déjà des choses chez ce prestataire-là, bah vous pouvez maintenant l'interfacer avec Intune et faire en sorte que toutes vos stratégies de conformité puissent fonctionner quand un périphérique s'enroule à Intune et donc profiter de tout ce que propose l'accès conditionnel, ce qu'on peut déployer sur des périphériques comme les profils Wi-Fi, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vachement pratique et ça permet en fait de mettre en place ce qu'on appelle du Mobile Threat Defense et d'avoir un petit peu plus d'intelligence sur le périphérique pour lui donner accès aux services de l'entreprise. Donc je vous conseille de tester ou moins de regarder dans le portail comment ça fonctionne. Faites un tour sur le nouveau portail dans la partie Intune et vous allez pouvoir connecter votre service cloud de défense sur les périphériques mobiles à Intune.
Ok, donc ça s'appelle Zimperium avec un Z.
Alors ça, c'est le nouvel arrivant, le nouveau partenaire Zimperium. On vous mettra le lien, en sachant qu'il y a aussi donc Lookout et Skycure, qui permettent de faire à des degrés plus ou moins différents ce genre d'accès d'accès conditionnel, on peut dire ça, c'est une sorte d'accès conditionnel amélioré, basé sur des règles de conformité, sur des stratégies, puis après vous avez toute une partie reporting qui vous permet de faire de l'analyse comportementale, de l'alerte sur vos périphériques si une action, on va dire, suspecte est détectée. Un petit peu ce qu'on est capable de faire avec Windows Defender ATP sur du Windows 10, ben là on a la même intelligence sur des smartphones. Et c'est assez sympa.
Cool, comme quoi l'ouverture d'Azure, c'est vraiment dans tous les domaines. Et c'est...
Ouais, complètement. Et en fait, la stratégie de Microsoft, c'est pas forcément de réinventer la roue quand il existe quelque chose de bien fait. Alors il y a deux, on va dire, stratégies Microsoft, c'est soit on rachète, soit on travaille avec le partenaire pour intégrer leurs services dans les services Microsoft. Et ça, c'est une stratégie qui, je pense, a pas mal porté ses fruits. On l'a vu avec toute la suite EMS, parce que la suite EMS, elle est composée de pas mal de briques qui ont été rachetées. Cloud App Security, c'était une boîte israélienne. Microsoft ATA, c'était aussi une boîte israélienne rachetée. Donc voilà. Tous les services Microsoft à un moment ou à un autre proviennent le plus souvent d'une acquisition d'une entreprise pour profiter et améliorer les produits Microsoft.
Tu voulais nous parler également
Voilà, bah justement, on parlait un petit peu de conformité. On a aussi dans Azure Active Directory ce qu'on appelle l'accès conditionnel. Alors voilà. ça marche quand vous avez la licence premium. En gros, qu'est-ce que c'est accès conditionnel ? C'est de dire, ben, je vais pouvoir mettre une règle en place pour dire, je veux que mon utilisateur accède, par exemple, à sa boîte Exchange Online que depuis un périphérique d'entreprise ou que depuis le réseau interne de l'entreprise ou voilà, depuis un PC Windows 10 d'entreprise ou depuis tel ou tel IP et pas d'autres. Voilà, donc on peut mettre en place tout un tas de stratégies qui vont permettre de filtrer l'accès et comment on va consommer les services Office 365 et Azure AD. Et donc dans ces règles d'accès conditionnel, on va pouvoir maintenant mettre en place des stratégies sur Microsoft Teams, qui était un grand absent depuis quelques temps. Et d'ailleurs, on a le support aussi du client Teams sur cet accès conditionnel, ce qui ne fonctionnait pas forcément avant. Et on peut aussi mettre des règles d'accès conditionnel pour les administrateurs Azure sur le portail Azure et pas que le nouveau portail Azure. Hein. Ces règles, on peut les faire sur l'ancien, ce qu'on appelle le portail classique, et sur le nouveau portail Azure, ce qui va permettre de dire ben, mon administrateur, il peut administrer Azure de manière globale que quand il est dans l'entreprise, depuis tel IP ou depuis un poste qui est enregistré dans l'entreprise, etc. Donc voilà, on peut mettre en place cet accès conditionnel sur les portails Azure et sur Microsoft Teams. Alors faites attention, surtout sur le portail Azure, faites attention comment vous configurez votre accès conditionnel, parce que ce serait bête de se retrouver sans aucun accès d'administration au portail Azure. Parce qu'après, vous ne pouvez plus rien faire. Hein.
C'est pas faux.
C'est un peu ballot. Ouais. Et puis début juin, donc il y a eu aussi, voilà, petit rapidement, une nouvelle build de SCCM, de System Center Config Manager.
SCCM, il existe encore donc.
En 17.05, bien sûr qu'il existe et il est vachement, vachement mis en avant. Donc il faut savoir qu'il est rentré comme dans Windows 10 dans un cycle Current Branch, c'est-à-dire qu'il est mis à jour au fil de l'eau. On n'a plus de grosses releases comme on le faisait un petit peu avant où on allait télécharger les sources, l'installer par-dessus ou en parallèle, migrer notre infrastructure, etc. Là, on a vraiment un produit qui se met à jour tout seul et qui va récupérer ses mises à jour depuis le cloud et qui va pousser les mises à jour de Config Manager sur tous les serveurs de l'infrastructure. Voilà. Donc le produit se met à jour tout seul, il évolue en même temps que Windows 10. Il faut savoir que Microsoft a annoncé qu'il se calait sur les cycles de Windows 10 pour les autres produits, dont SCCM et Office, ce qui va permettre d'avoir deux grosses releases dans l'année. Et à chaque fois, on aura une grosse release de SCCM couplée à une grosse release de Windows 10, couplée à une grosse release de Office 365 Pro Plus. ce qui va permettre de pas passer toute l'année à migrer les postes. Voilà, on sait que deux fois par an, on a cette grosse vague de mise à jour à planifier. Et donc, avec la nouvelle version 17.05, on a tout un tas de fonctionnalités qui arrivent. Les plus intéressantes pour moi, c'est cette fois l'intégration d'Azure Active Directory. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cette fois faire du discovery enfin des utilisateurs Azure AD. Avant, en termes d'utilisateurs dans SSM, on pouvait voir que des utilisateurs d'Active Directory. Maintenant, on voit enfin nos utilisateurs cloud. On voit que cet utilisateur est synchronisé avec Azure AD. D'accord. On a aussi une règle des nouvelles règles qu'on peut créer pour configurer Windows Defender Application Guard. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, Pascal.
Allez, vas-y en deux mots.
Windows Defender Application Guard. La seule fonctionnalité qui existe pour l'instant dans cette brique-là, c'est une protection pour le navigateur Edge, ce qui va permettre en fait de lancer le navigateur Edge dans une bulle isolée du système. Donc derrière, en fait, c'est une bulle virtuelle dans laquelle va tourner le navigateur Edge, ce qui va vraiment permettre pour les applications, on va dire, les plus critiques et d'apporter un niveau supplémentaire de sécurité sur le poste. On va lancer des sites internet qui ne sont pas, on va dire, de confiance, considérés comme de confiance par l'entreprise, dans une VM isolée du système. Et en tant qu'administrateur, on va pouvoir dire quel site n'ira pas dans cette bulle virtuelle et quel site n'est pas de confiance et donc sera exécuté via c'est comme une machine virtuelle derrière qui lance Edge. Et donc maintenant, on peut piloter ce comportement et cette configuration via SSCM. Et ça, c'est assez sympa.
Ok, donc SSCM suit les évolutions de Windows 10 et les évolutions des architectures hybrides, avec ce que tu nous expliquais juste avant. Quoi.
Ouais, et c'est loin d'être un produit mis de côté. Quand on regarde toute la suite System Center, c'est le produit qui est le plus souvent mis à jour et qui a une espérance de vie, à mon sens, assez longue, contrairement à d'autres services de la suite. Bon, c'est pas forcément le sujet.
Ok. Et quand on a une licence Intune,
oui, on a une cale SSCM, mais on a une cale SSCM que pour un client Windows.
D'accord.
Ou mobile, jusqu'à 5 périphériques par utilisateur. Si on veut gérer des Windows serveurs ou des serveurs Linux, parce qu'on peut le faire, dans SSM, il va falloir avoir des licences dédiées pour gérer ces serveurs-là. Mais effectivement, dans la suite EMS, si on a une licence EMS, derrière, on a des cales SSM client et mobile pour manager ces périphériques via SSM. Qui restera juste à payer la licence Windows Server, en fait.
Ok, c'est parfait tout ça. Maxime, est-ce que tu as d'autres petites infos intéressantes pour aujourd'hui ?
Bah écoute, non, c'est à peu près tout. Puis on en gardera pour un prochain épisode.
On a été un petit peu plus bavard que prévu, mais à peine. Donc, tout va bien. On va souhaiter à tout le monde un bon week-end.
Bon week-end à tous. Ouais.
Et puis on se revoit très vite. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci Maxime et à bientôt.
Merci à tous. Très bonne soirée.